Mondial Sport,
RFI,
Hugo Moissonnier.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mondial Sport, l'émission de tous les exploits aux quatre coins du monde sur RFI, même si aujourd'hui, les exploits dont nous allons parler sont d'un genre un peu particulier. Vous qui nous écoutez, vous êtes probablement habitués à suivre le sport de manière classique, conventionnelle. Soit vous allez au stade, soit vous regardez les matchs, les compétitions à la télévision. Mieux encore, vous écoutez RFI, que ce soit nos intégrales, nos émissions, Radio Foot, Mondial Sport, et vous faites bien. Mais pour vos enfants, pour vos ados notamment, la donne pourrait être différente. Leurs athlètes favoris ne jouent pas forcément pour une équipe, plutôt pour une chaîne, pour un compte. Leurs supporters, on les appelle une commu. Les succès se mesurent moins en titres ou en médailles qu'en chiffres. Les statistiques, ce ne sont pas des chronos ou des buts marqués. Plutôt un nombre de followers, d'abonnés ou de vues. Les créateurs de contenu, les influenceurs, ces vedettes des réseaux qui se mêlent de sport, sont-ils devenus les nouveaux champions en France? Le sport, ce n'est pas que Mbappé ou bien Léon Marchand, c'est aussi Thibaut InShape. L'idole des jeunes, créateur de contenu le plus suivi en France et même le premier au monde dans son monde à lui, à savoir la catégorie fitness. Aux États-Unis, Jake Paul, on en a parlé dans Mondial Sport, autre star de YouTube, est allé jusqu'à défier et battre un certain Mike Tyson dans une séquence surréaliste qui en dit peut-être long sur les évolutions du spectacle sportif. Mondial Sport met à contribution des reporters, des universitaires, mais aussi un influenceur sportif sénégalais ce samedi pour tenter de décrypter le phénomène.
J'espère que vous allez bien, c'est parti pour le marathon de Paris. Les gars, 42 bornes, ça commence maintenant la course. Ouais, ça remonte bien là. 24, allez, on est présent. 26 km, 27, 28 km. On envoie. Mais ça peut être pareil.
Marathon, c'était vraiment une expérience incroyable. Et quand je vois mon niveau à la base...
Donc une petite heure, presque 10 km.
20 !
Alléluia !
10 km, une heure et quelques.
Je suis plutôt fier de moi et je me dis que j'ai quand même pas mal travaillé. D'ailleurs, si vous avez des questions sur le marathon, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Le marathon, c'est vraiment pas une épreuve facile. Alors oui, tout le monde peut y arriver. Tout le monde peut être finisher.
Bravo, Cam ! Bien joué, bravo !
Il vous prendra encore plus de plaisir à finir le marathon si vous vous entraînez sérieusement chez vous. Alors commencez par un 3 km, un 5 km, un 10 km, un 15 km. N'oubliez pas, il n'y a pas d'âge pour commencer le sport. Plus tôt vous commencerez, plus tôt vous y arriverez. Entraînement, patience et discipline. Encore félicitations à tous les marathoniens et aux futurs marathoniens qui regardent cette vidéo.
C'est dur, hein ? Bravo ! On l'a pas eu facile, hein ? Oh là là !
Et oui, c'est dur, mais vous aussi, vous pouvez être un finisher et vous mettre au sport. Au passage, vous pouvez acheter des protéines ou la créatine Thibaut InShape. Les liens sont sous la vidéo dont on vient d'entendre quelques extraits. La dernière vidéo de Thibaut Delapart, c'est le vrai nom de Thibaut InShape. Dernière vidéo sur la chaîne YouTube à plus de 26 millions d'abonnés. Elle s'appelle, cette vidéo, « Je cours le marathon de Paris ». On en est à 10 000 likes et près de 175 500 vues. La dernière fois que j'ai vérifié. Bonjour Bernard Andrieux.
Bonjour.
Philosophe du sport, de retour dans Mondial Sport. J'espère que vous avez abonné, vous êtes abonné, vous avez cliqué le pouce levé vers le haut sous les vidéos de Thibaut InShape.
Le haut, le bas, après, on va voir.
Dorénavant, on va discuter comme ça dans Mondial Sport. On arrête la philosophie, les discours nuancés, construits, on va mettre des likes ou des dislikes. Ouais. On va se mettre au temps des influenceurs et des réseaux sociaux avec Séguir Lazry également, notre sociologue. Bonjour Séguir.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Vous connaissez Thibaut InShape?
Oui, alors pas personnellement, mais je le connais.
Vous êtes familier avec ses publications.
Alors ouais, je suis très familier avec ses publications. Non, je le connais de nom comme beaucoup de monde et comme la plupart des Français, je pense, dans le champ médiatique.
On est d'accord que c'est plutôt un phénomène nouveau. Il n'y a pas eu forcément d'équivalent avant les réseaux sociaux, avant l'apparition de ce phénomène numérique. Bernard Andrieux, on est sur quelque chose d'assez récent. C'est difficile peut-être à expliquer, décrypter, même si on est là pour ça aujourd'hui.
Mais c'est le média qui a changé. L'héroïsation médiatique, ça a toujours existé, mais en fait, ça a changé parce que aujourd'hui, on est sur un média qui montre pas simplement l'héroïsme sportif, mais aussi l'idéologie selon laquelle ça serait accessible à chacun parce que on y participerait et on le montrerait en même temps. Et ça, c'est complètement différent. Vous voyez, quand Bernard Hinault refait l'étape avec un vélo électrique, on va le suivre, mais c'est toujours le héros qui est là. Tandis que avec les supports qu'on a là, finalement, on a l'idée que, il l'a dit d'ailleurs, tout le monde peut y arriver. Hein, c'est-à-dire, c'est une sorte de démocratisation, non pas par la pratique, mais de démocratisation par justement l'influence de l'image sur peut-être j'aurai les capacités de le faire, puisque lui, à peu près n'importe qui, un anonyme, va prendre une nouvelle figure et va avoir une signature qui serait une sorte de label de pratique. Et ça, c'est quand même complètement différent de l'entrée traditionnelle dans la pratique.
À la question de quoi Thibaut Inchep est-il le nom, vous avez déjà fourni des éléments de réponse. Je vous en remercie. Le 26 mars dernier, le journal Libération en faisait de même. Le journal publiait une enquête sur le business du plus gros youtubeur français que l'alter est porté. Le sens et la science du titre à la Libération. L'enquête est signée Mathilde Roche. Je vous lis le début. Le personnage est discutable, mais le mec est une machine. La routine matinale de Thibaut InShape, réveil à 5h du matin, douche glacée, petit-déj protéiné, 2 heures de crossfit, trier des centaines de mails, superviser les nouveaux projets de ses sociétés, filmer une opération marketing, le tout avant midi. Bon, je vois pas de différence avec la routine de Ségur Lazeri, mais Ségur Lazeri a moins d'abonnés sur YouTube. Je suis allé vérifier. Bonjour Mathilde Roche.
Bonjour.
Alors vous êtes, déjà merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes la journaliste donc, qui a écrit ces lignes et qui a signé cette enquête sur Thibaut InShape dans le journal Libération. J'invite tous ceux qui nous écoutent à la lire. Ça date du 26 mars dernier. La question est simple, vous y répondez, mais on va de nouveau vous la poser pour ceux qui n'ont pas eu la chance de lire votre enquête. Qui est exactement Thibaut InShape? Est-ce que vous pouvez nous résumer cette ascension incroyable, cette success story incroyable du premier youtubeur, influenceur français et même toute catégorie confondue?
Eh ben, Thibaut InShape, malgré la consonance anglophone, c'est un Toulousain qui a 32 ans aujourd'hui. Il a commencé à poster des vidéos sur la plateforme YouTube il y a un peu plus de 10 ans maintenant, pour parler principalement de sport et de musculation. Il a très vite sorti son épingle du jeu, il a monté donc plusieurs business en parallèle, comme vous l'avez dit. Il a un programme sportif, il a une ligne de vêtements, il a des compléments alimentaires. C'est vraiment un esprit d'école de commerce. Et ça a fait son succès. Et du coup, là, en 2024, c'est devenu le youtubeur français au plus grand nombre d'abonnés. Donc, il est suivi, vous l'avez dit, par plus de 26 millions de personnes aujourd'hui. Il est aussi le premier youtubeur mondial dans la catégorie fitness. Et c'est une ascension qui est un peu particulière et assez controversée pour les observateurs de YouTube, parce que sur ces 26 millions d'abonnés, il y a une bonne partie qui sont des followers étrangers. En fait, l'année dernière, YouTube a mis en avant un nouveau format vertical qui s'appelle les shorts pour concurrencer d'autres réseaux sociaux comme Instagram ou TikTok. Et lui a investi à fond dans ce nouveau contenu dont l'algorithme visait un public international. Donc en fait, il s'est mis à percer en Inde, en Russie, en Indonésie avec des vidéos sans parole où il montre juste des exercices de musculation. Et voilà, ça a quasiment doublé son nombre d'abonnés. Et pour certains, ça remet un peu en question sa légitimité, même s'il avait déjà une des plus grosses communautés parmi les youtubeurs français.
Alors, vous l'avez un petit peu dit, des vidéos de musculation. Comment parle-t-il de sport, Thibaut InShape? Est-ce qu'il ne parle que de sport? Parce qu'il est le premier dans la catégorie fitness, mais est-ce qu'il ne parle que de sport? Pas tout à fait.
Non, pas tout à fait. Assez rapidement sur sa chaîne, il s'est mis à aborder plein de sujets de société. Il a testé des professions méconnues, il s'est mis à faire des interviews de personnes avec des histoires personnelles un peu folles ou un peu difficiles. Et ça l'a amené à faire pas mal de contenu sur des sujets de société, voire politique. Et ça participe aussi au fait qu'il soit aussi connu dans le milieu de YouTube. Parce qu'il a très vite, viré avec des sujets aussi dans l'humour que un peu polémique.
Un peu polémique, effectivement. Il y a eu des polémiques. Il est même en procès avec un autre média, Blast, qui avait fait il y a un an une vidéo pour le classer, alors eux avaient utilisé le terme facho, mais en tout cas le classer très, très à droite, on va dire, du spectre politique. Et c'est des polémiques liées à des prises de position directes ou indirectes plutôt conservatrices, voire on a exhumé des messages sur les réseaux sociaux carrément racistes ou homophobes.
Oui, effectivement. Il y a des messages sur son Facebook qui ont été, qui sont ressortis une fois qu'il a été assez connu, où il disait vraiment des horreurs racistes et homophobes. De mémoire, c'était quelque chose comme « je m'amuse à jeter des côtes de porc sur les musulmans, c'est cool comme ça, ils brûlent ». Ou le jour de la réélection de Barack Obama, « un noir réélu et le mariage des homosexuels adopté, ce ne sera pas une journée facile ». Donc ça, c'est des propos qui datent de 2012. Lui, il explique bien qu'il a changé depuis, qu'il a donné la parole à plein de personnes discriminées dans notre société, et en particulier des femmes voilées ou des personnes appartenant à la communauté LGBT. Mais il y a eu plusieurs controverses. Il y a eu sa visite guidée du camp d'Auschwitz d'un ton extrêmement enjoué. Il y a eu une interview d'un thanatopracteur où il filmait un cadavre. Enfin, il a quand même eu un peu une stratégie de provocation pour du bad buzz, qui est un buzz quand même, et donc faire parler de lui par tous les moyens.
Merci Mathilde Roche pour ce portrait et ce résumé quelque part de la trajectoire de Thibaut InShape. J'invite évidemment encore une fois à lire votre enquête, donc parue le 26 mars dernier. On peut la retrouver sur le site de Libération. Et merci de nous avoir un peu présenté donc celui qui est presque la figure de proue des youtubeurs, des influenceurs, des créateurs de contenu liés au sport, et même pas qu'en France, quasiment au niveau mondial. Ségir Lazeri, on entendait dans la vidéo quand il courait le marathon qu'il était applaudi, c'était pratiquement lui la vedette sportive de cet événement sportif. Est-ce que c'est devenu un champion, une star du sport comme les autres, Thibaut InShape?
Alors, en termes de visibilité, oui, parce qu'il y a une espèce de concordance aussi à ce que les sportifs de haut niveau déjà soient inscrits aussi dans le système de l'influencing, enfin des influenceurs. Il ne faut pas oublier que celui qui a le plus de followers Instagram, c'est quand même Cristiano Ronaldo. Donc c'est un...
Il y a un lien presque direct entre
Il y a un lien de miroir, en fait, en quelque sorte. C'est-à-dire que vous avez des sportifs qui eux-mêmes doivent rentrer dans une économie de la visibilité pour pouvoir exister, faire profiter et se constituer une carrière sportive. Parce qu'en fait, finalement, une carrière sportive de haut niveau se constitue aussi par le degré d'implication dans un rapport marchand à la visibilité. Pour exemple, Neymar, quand il a été transféré à Al Ahly en Arabie Saoudite, il y avait quand même 500 000 dollars, il me semble, ou euros par poste qu'il pouvait poster sur son Instagram. Donc on comprend, il y a l'Arabie Saoudite. Donc à chaque fois qu'il faisait un poste Instagram pour promouvoir l'Arabie Saoudite, il recevait de l'argent. Donc il y a l'idée quand même de bénéficier de cette aura de visibilité. Et à l'inverse, on a justement des individus. Alors moi, ce qui est assez intéressant, là je vais faire appel à des travaux qui ont été menés par un autre sociologue qui s'appelle Joseph Godefroy, qui a travaillé sur justement le marché des influenceurs sportifs, des influenceurs fitness. Thibaut InShape, c'est un peu le haut de la pyramide. C'est celui qui a le mieux réussi. Et en dessous de tout ça, en fait, comme dans n'importe quel système sportif, vous avez des gens qui finalement vont être moins impliqués, enfin, vont avoir moins de rémunération par rapport à l'activité. À la base, ce que démontre justement Joseph Godefroy, c'est qu'il y a l'idée quand même de produire un corps, de produire un corps normé. Souvent, les influenceurs partent pas nécessairement pour faire de l'audimat et s'inscrire dans un marché du youtubisme en quelque sorte, mais au contraire essaient d'avoir un corps qui répondrait aux attentes sociales. Et à partir de là, à partir de cet investissement dans le monde du fitness, à partir du moment où dans leur interaction sociale, finalement ils se rendent compte que bon, il y a des bénéfices à en tirer, qu'on vient les solliciter, que ça crée du lien social, qu'on dit comment tu t'entraînes et tout ça, ils vont petit à petit s'inscrire dans ce marché de la visibilité. Ce qui est très intéressant, c'est que par rapport à ce marché de la visibilité, il y a des inégalités qui sont assez criantes. Et là, ce qui avait été dit justement par Mathilde Roche sur cette question d'être quelqu'un qui a fait une école de commerce, donc aussi de optimiser sa visibilité, tout le monde n'est pas égaux face à ça. Et il y a des gens qui vont s'inscrire dans cette visibilité de YouTube ou d'Instagram, mais qui vont avoir des contributions totalement différentes. Souvent, les gens se font malmener. Il y a une espèce d'aura et d'élan, évidemment, en se disant que ça va être un succès, mais finalement, c'est très compliqué à pouvoir marcher, à pouvoir fonctionner. Il faut jouer avec les algorithmes. Il faut aussi jouer avec les partenaires aussi, qui vont être des éléments essentiels qui vont constituer une carrière dans ce registre-là. Et en ça, finalement, on se rend compte que Thibaut InShape, pour exister, il ne fait pas que du sport, il fait bien, bien, bien autre chose. On l'a vu manger, faire des partenariats avec Burger King, alors qu'il est censé quand même présenter.
On imagine que pour être in shape, donc effectivement, en français, être présenté, être une en forme, en avoir un corps musclé, en gros. Et Burger King, c'est pas. On en revient à ce que vous disiez, Bernard Andrieux. Donc, c'est un champion sportif, mais un peu plus que ça. C'est-à-dire qu'il il raconte une autre histoire, une histoire plus globale de success story.
En fait, c'est la différence entre la performance et puis ce qu'on appelle la performativité. Alors, je vais l'expliquer. Autrefois, il n'y a pas très longtemps, les sportifs faisaient des performances. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez sauter en hauteur et puis vous allez battre un record du monde. Et à ce moment-là, vous faites un audimat. Hein, vous faites du buzz, etc. parce que vous accomplissez une performance. Mmh. Hein. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin de faire une performance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, il suffit simplement de mettre, tu l'as très bien expliqué, hein, de mettre en œuvre son corps dans une action, dans une situation. Et de dire, just do it. Voilà, je le fais. Je le fais pour toi. Tu pourrais le faire. Viens avec moi le faire. Enfin, etc. etc. Et finalement, la notion de sportivité, la notion d'action sportive, etc., ça devient plus un moyen qu'une finalité.
Et c'est ce qui explique que finalement, on a comme presque première personnalité sportive en France, un influenceur fitness, un sort de coach sportif amélioré plutôt qu'un simple champion, entre guillemets, Alain Mbappé ou Marchand qui se contente, entre guillemets, de marquer des buts, de gagner des compétitions. Un peu de Youssou N'Dour, Birima, ça nous rappelle une autre émission sportive de RFI, Radio Foot. Hein, Youssou N'Dour, le grand chanteur sénégalais, était l'invité d'Annie Gasnier ce lundi. Et puis on reprend le fil dans Mondial Sport. Youssou N'Dour, c'est pas un influenceur. On a parlé de Thibaut InShape. On en retrouve d'autres plus modestes. Tout à l'heure, promis, reportage à l'Aerox de Paris. Vous ne savez pas ce qu'est l'Aerox ? Moi non plus. On découvre ça avec Baptiste Leduc dans quelques minutes. Birima Yusundu, Mondial Sport sur RFI. De quoi les influenceurs sportifs sont-ils le nom? On parlait de l'une des plus grandes stars du genre, le français T-Bone Shape, annoncé comme participant ce week-end à l'Aerox, sous la verrière du Grand Palais à Paris, un lieu qui a marqué les amateurs de sport conventionnels. C'était le lieu de l'escrime, du taekwondo lors des JO de Paris, et là c'était le lieu... C'est le lieu, c'est en ce moment, ce week-end, de l'Aerox. Alors c'est quoi l'Aerox? Bonjour Baptiste Leduc.
Bonjour Hugo, bonjour à tous.
C'est un événement fitness capable de réunir 12 000 participants en 3 jours. Et parmi eux, bah, on attend normalement Thibaut InShape, mais il y a aussi d'autres influenceurs qui y participent. Et vous êtes allés un peu les cuisiner, comme on dit.
Exactement, j'ai pas croisé Thibaut InShape, j'en ai croisé beaucoup d'autres. Alors rapidement d'abord, l'Aerox, qu'est-ce que c'est? C'est une course où les participants parcourent 8 km entrecoupés à chaque fois de 8 exercices comme du rameur ou alors pour le dernier un lancer de balle de 6 kg contre un mur 100 fois. Voilà, c'est pour vous dresser un petit peu le tableau.
C'est pour les machines.
C'est pour les machines et c'est le nouveau sport à la mode, en particulier donc dans le petit monde des ou le grand monde des influenceurs sportifs. Et donc ils étaient nombreux à participer ce matin, bien souvent quelqu'un pour les filmer, des followers même pour les encourager, comme Aurélien Tesson, ancien candidat de Koh-Lanta, l'émission de survie, aujourd'hui créateur de contenu santé et sport. Il est suivi par plus de 60 000 personnes sur Instagram à qui il vante les mérites de l'Aerox.
J'ai pas le sentiment qu'il y ait d'autres entités comme ça qui brassent autant de personnes. Moi je suis surtout très content de voir qu'il y a énormément de monde. Je considère que ça fait partie de mon job aussi d'inciter les gens à faire du sport et à se mettre à une activité sportive. Et là j'ai vraiment l'impression que ça prend et que c'est en plein essor, donc c'est hyper satisfaisant.
L'Aerox, c'est très jeune, ça n'existe en France que depuis 3 ans et pourtant le succès est déjà fou et c'est en partie dû à cette armée de micro-influenceurs, comme on dit, Séguir Lazeri, c'était l'autre partie de la pyramide dont vous parliez qui est dominée par Thibaut InShape, là c'est le reste.
Le prolétariat des influenceurs sportifs, on va dire ça.
Même s'ils sont extrêmement impressionnants, hein. Alors pourquoi se sont-ils autant saisis de cette nouvelle discipline? J'ai posé la question à Florian Servet, qui pouvait compter ce matin sur quelques-uns de ses 6500 abonnés pour l'encourager.
Écoute, c'est une bonne question, mais effectivement, ça a beaucoup d'influence, entre guillemets, cet Aerox. Pourquoi? Parce que je pense que c'est un sport qui est accessible à tous, dans lequel on peut se dépasser. C'est tout nouveau, donc il y a tout reste à faire, entre guillemets, dans ce sport. Et les records sont battus à chaque étape, enfin, à chaque épreuve, entre guillemets. Donc je pense que c'est pour ça que ça a autant d'impact dans le monde des réseaux sociaux, on va dire.
Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que pour une discipline nouvelle comme l'Aerox, eh bien, on ne peut pas se passer de ces relais, ces influenceurs sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que les sponsors comme Puma, Red Bull, ont mis le paquet à Paris en invitant un grand nombre. Maxime Villalongue, le président d'Aerox France, a bien compris comment capitaliser sur ce nouvel écosystème.
Il y a une vraie tendance qu'il n'y avait pas il y a 10-15 ans au bien-être. Et il y a une prise en compte, une prise de conscience que le sport était une des premières façons de se faire du bien mentalement et du coup d'aller chercher ce bonheur-là. Donc. Et à bout de la chaîne, Aerox est une pratique sportive qui peut être incluse dans le quotidien de tout le monde. Quand on est créateur de contenu et qu'on a envie de s'adresser à tout le monde, c'est un beau moyen en tout cas de s'adresser de façon précise et efficace à tous.
La recette influenceur Aerox fonctionne, donc elle va s'installer. Aerox Paris a signé pour 3 ans avec le Grand Palais. L'épreuve sera de retour l'année prochaine.
De quoi les influenceurs sportifs sont-ils le nom? Peut-être l'Aerox est un début de réponse, c'est Séguir Lazeri. Là, on est vraiment, on va dire, dans une illustration du phénomène. On a la musculation, les influenceurs, un spectacle sportif, on va dire, conventionnel, qui prend la place de spectacles sportifs beaucoup plus classiques, ouais. Un lieu des JO quand même. Qu'est-ce que ça vous inspire, tout ce que vous a raconté Baptiste?
Et bien sûr, en fait, il y a quand même une jonction entre ce qu'il y avait, entre un congrès qui serait un congrès du domaine des multimédias, du mode, plutôt de la culture en quelque sorte du numérique, avec effectivement la culture, même la culture de pop culture, je dirais, on n'est même plus dans l'ordre numérique, et à la fois aussi les épreuves et les sauts, donc on sera à mi-chemin entre quelque sorte entre effectivement cette scène sportive qui caractérise le spectacle sportif, et en même temps le congrès d'amateurs, le congrès de fans, d'abonnés, et Mais en ce sens, c'est ça qui est sans doute très particulier, c'est que maintenant on assiste à une nouvelle forme de mise en soi, de disposition corporelle, et finalement le corps qui est engagé justement dans ce spectacle sportif n'est pas un corps simplement qui produit de la performance, on l'expliquait tout à l'heure, mais c'est un corps aussi qui doit être en relation. Et c'est ça qui est très particulier, c'est que autant avant, quand vous étiez un athlète, vous avez des relations avec vos camarades et qui vous produisaient des spectacles sportifs, donc quand vous êtes dans une équipe de football ou dans une équipe de rugby, ben, vous jouez avec
des coéquipiers, voilà.
Autant là maintenant, il faut faire quand même attention à ce qui produit de la visibilité, donc à l'ensemble des abonnés qui sont tout autour, et surtout faire attention de ça. Donc je pense que ça crée des nouvelles formes de sociabilité, et surtout aussi par lien social, aussi des nouvelles formes de vulnérabilité, parce qu'il faut maintenir quand même ces choses-là. Alors comment on peut maintenir quand est-ce qu'on est totalement dépendant de ces tissus-là? Enfin, il y a quand même on parlait tout à l'heure de l'algorithme de Thibaut Inchep qui avait boosté ce nombre d'abonnés. Effectivement, comment on maîtrise ces fluctuations-là? Comment on maîtrise cet outil-là qui est un outil qui ne dépend pas forcément nécessairement de l'individu en lui-même, mais aussi de tout un tas de protocoles qui reposent sur d'autres choses, hein, qui reposent sur la technoscience et d'autres. Mais bon.
Bernard Andrieux, philosophe du sport, promis, je vous fais réagir à l'Aerox parce que. Je sais que vous êtes allé vérifier sur votre téléphone comment vous inscrire pour la session de l'année prochaine. Mais avant, on va faire une petite pause pour faire le point sur l'actualité sportive. Alors là, la plus conventionnelle, pas d'aérox, juste du football et autres réjouissances.
Mondial Sport.
C'est qu'il attend sagement à ma droite. Bonjour Babacar Diarra.
Bonjour Hugo.
Ça joue en Ligue 1. Le ballon rond, le PSG qui continue de préserver son invincibilité.
Ouais, le ballon tourne toujours rond pour les Parisiens. Leur dernier enjeu en championnat, c'est cette invincibilité. Pour le moment, ça tient à l'occasion de la 30e journée. Les joueurs de Luis Enrique mènent 2-1 face au Havre au Parc. Désiré Doué et Gonzalo Ramos ont marqué pour le PSG. Le Sénégalais Issa Soumaré pour les Normands. Puis dans moins d'une demi-heure, place à la course au podium, Monaco-Strasbourg, le deuxième contre le sixième, suivi de Marseille-Montpellier, le troisième contre la Lanterne Rouge.
En Liga, le Barça qui se rapproche encore un peu plus du sacre, mais ce fut dur, on s'est fait peur du côté des Catalans cet après-midi.
Une victoire qui fera date. Dans cette fin de saison, les Blaugrana sont tombés sur un coriace adversaire, le Celta Vigo, septième du championnat. Il a fallu attendre un pénalty sifflé dans un temps réglementaire rallongé de 11 minutes pour voir le Brésilien Rafinha. Ça vous fait rire, mais les supporters madriens, ça ne les fait pas rire. En tout cas, le pénalty de Rafinha a été inscrit avec une victoire 4-3 pour les Blaugrana. Barcelone prend 7 points d'avance sur le grand rival madrilène qui joue demain face à l'Athletic Bilbao.
C'est encore raté en tennis pour Arthur Fils face à Carlos Alcaraz.
Deuxième défaite en 8 jours pour le jeune français face au dernier vainqueur de Roland-Garros. La semaine dernière à Monte-Carlo, ça s'était fait en 3-7. Arthur Fils avait remporté d'ailleurs la première manche. Cette fois, c'était beaucoup plus sec, hein. 6-2, 6-4. Carlos Alcaraz rejoint Holger Rune, le Danois, en finale demain sur la terre battue catalane.
Aux États-Unis, dans environ une demi-heure, le coup d'envoi d'un pan de compétition qui nous intéresse beaucoup dans Mondial Sport, c'est de la NBA. Ce sont les playoffs qui vont débuter.
Et ça va durer jusqu'à mi-juin à peu près. Ça part fort hein, avec le premier tour. 4 affiches, 2 en conférence ouest, 2 à l'est. La première, c'est dans à peu près 25 minutes. Hein, les Indiana Pacers qui défient les Milwaukee Bucks. C'est une revanche du premier tour de l'année dernière avec cette fois Giannis Antetokounmpo, le grec d'origine nigériane, et puis les 3 autres affiches, Denver Nuggets, LA Clippers, New York Knicks, Detroit Pistons qui sont bons, le début des années 90 et puis Los Angeles Lakers, Minnesota Timberwolves avec le français Rudy Gobert.
Donc chez vous c'est Detroit et non pas Détroit, je respecte ce purisme Babacar, on se retrouve demain ou un autre jour dans Mondial Sport, merci beaucoup à vous.
Merci.
Mondial Sport, Hugo Moissonnier.
Bernard Andrieux, je n'ai pas eu le temps de vous faire réagir sur l'Aerox, ce grand rendez-vous, grand ramdam des influenceurs sportifs et de la musculation et des communautés, des différentes communautés qui vont avec. Vous parliez un petit peu de la dimension un petit peu symbolique ou des valeurs que renvoyait le phénomène de ces créateurs de contenu sportif. Là, on voit, est-ce que c'est quand même très relié à la musculation? Il y en avait un qui disait, l'ancien candidat de Koh-Lanta, il faut que tout le monde se mette au sport, c'est bon pour la santé. Donc, il y a quelque chose comme ça de très normatif qui, je crois, vous inspire.
Oui, c'est encore... c'est ce qu'il a parlé tout à l'heure, c'est un corps normatif, mais il ne faut quand même pas non plus confondre le slogan, c'est-à-dire qu'on voit que l'organisateur dit il faut faire du sport, c'est le bien-être, etc. Et quand on voit la nature des épreuves, Je veux dire, là, on est quand même dans le mythe de créer un sport hybride. Hein, Irox, c'est un sport hybride, c'est-à-dire qu'on va hybrider en fait des disciplines qui sont complètement différentes et qui n'ont pas forcément une complémentarité, comme dans le décathlon ou dans le pentathlon. Et quand on voit les argumentaires qui sont utilisés, c'est du renforcement musculaire cardio. Il s'agit de développer la coordination, l'agilité, la force musculaire essentiellement et la résistance. Voilà. Donc, on est quand même mono.
Et pourquoi c'est ça qui marche finalement?
Parce que précisément
dans le domaine numérique,
dans le domaine réel aussi, c'est-à-dire que le corps musclé, ça reste une façon de reviriliser le corps, hein, que ce soit d'ailleurs pour les hommes comme pour les femmes. Et on voit que dans certaines mesures, on va enchaîner. Bien sûr des épreuves qui seraient accessibles à tous et à toutes, mais quand on voit l'enchaînement, en fait, ça paraît quand même aussi la confrontation à la limite et au dépassement de soi. C'est-à-dire, c'est aussi l'idée de qu'est-ce que c'est un sport extrême aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que l'extrémité de mon corps.
Et les influenceurs, ils servent aussi un peu à répondre à cette question, alors l'entretenir si je vous suis.
Mondial Sport, Radio France Internationale,
Hugo Moissonnier.
Je voulais vous faire écouter un extrait d'un autre événement sportif qui met en scène un influenceur. Alors c'est loin de la France, on prend la direction des États-Unis. C'est plus Thibaut InShape, il s'agit de Jake Paul qui a quand même défié une légende du monde sportif dans une rencontre hautement symbolique et qui va nourrir notre discussion dans Mondial Sport sur RFI.
Tyson's final victory was against Clifford Etienne, the show of respect. That fight lasted 49 seconds. This one goes 16 minutes.
Judge David Iacobucci sees the contest 80-72, while judges Lawrence Cole and Jesse Reyes see it 79-73, declaring your winner by unanimous decision, Jake Elgarro!
L'Américain Jake Paul, célébrité 2.0, Baptiste Luc, Vine et YouTube, vous me confirmez, vous êtes un peu mon historien, Jake Paul.
Oui, c'est que ça remonte un petit peu, il faut faire de l'histoire pour remonter aux origines.
De l'histoire numérique.
Au final, ça s'est installé depuis une bonne dizaine d'années.
Mais Jake Paul, sur Vine, il faisait plutôt des vidéos humoristiques.
Avec son frère Logan, qui est aussi un petit peu passé de l'autre côté, du côté du sport. Effectivement, ils viennent de l'humour et ils se sont un petit peu, on va dire, diversifiés.
Et Jake Paul, il est donc entré dans l'arène, ou il est monté sur le ring plutôt pour se confronter à une vraie légende du sport, on ne peut plus conventionnel et on ne peut plus emblématique, Mike Tyson, donc sorti de sa retraite pour aller combattre à plus de 50 ans un YouTuber. Et c'est le YouTuber, Jake Paul, donc qui a gagné. On voit bien que c'est quand même un petit peu sa popularité 2.0 qui a permis à Jake Paul de s'offrir cette séquence que je qualifiais de surréaliste. On peut continuer à la qualifier de surréaliste, Seguir Lazri, mais sur le plan du symbole, là on y est, on a un influenceur qui vient battre un champion on va dire classique, même s'il a une histoire un peu particulière, Mike Tyson.
Oui, bien sûr, mais après, là, effectivement, c'est deux univers qui se rencontrent. C'est l'univers, effectivement, du sport classique, alors un peu sur le déclin, parce qu'on ne prend pas n'importe qui, on prend quand même Mike Tyson, qui a subi quand même les fous de ce que c'est que l'intensité du sport de haut niveau, c'est-à-dire la célébrité sportive. Donc, cet aspect-là, Mike Tyson, c'est quelqu'un qui, il a réuni plusieurs ceintures dans les années 90, autant il a connu une déchante aux enfers. Il représente quand même aussi ce côté déclassement du dépassement de soi, les répercussions, le revers de la médaille. Si on devrait prendre un athlète justement qui a connu les répercussions de ce que c'est que s'investir à fond dans le sport de haut niveau et dans le sport spectacle qui est la boxe, Mike Tyson en est la figure de proue. C'est vraiment
les devoirs. Il a un peu tué le père quelque part, Jake Paul.
Effectivement, alors il y a cette idée, sachant qu'en plus, si on prend les travaux, moi je pense à un historien que je connais bien qui s'appelle Sylvain Ville, justement, qui a travaillé sur le spectacle sportif et notamment sur Georges Carpentier. La boxe a été un des premiers justement sports à mettre en évidence cet aspect spectacle. la boxe est, dans les débuts des années, dans le début du XXe siècle, justement, l'un des premiers sports à créer de la célébrité sportive. Et c'est ça qui est assez remarquable, c'est que finalement, on a une célébrité qui vient du tube et qui va s'emparer du sport comme un élément justement de conquête. Et effectivement, vous avez bien fait de rappeler qu'ils viennent de l'humour. Et il y a en fait un basculement. On parlait de justement d'entretien de soi, de corps performant. Là, on bascule dans tout autre chose. Et si vous regardez d'ailleurs même l'ensemble des youtubeurs, moi je m'étais amusé à regarder ça aussi à un moment donné, c'est que vous avez n'importe quel youtubeur connu, je pense à McFly et Carlito notamment, pendant un an ils se sont quand même filmés en train d'essayer de perdre du poids et avoir un corps tonique et musclé. Donc il y a quand même cette idée que dans ce parcours du numérique, il y a cette prise en compte du corps comme un élément de perfectibilité. Voilà. Il faut que le corps, évidemment, soit perfectible, parce qu'on peut plus s'amuser à rire, on peut être excellent dans l'humour, on peut être excellent dans la communication, mais évidemment, le corps doit avoir sa place. Et c'est ça qui est très particulier. Et là, on va un peu plus loin dans ce schéma-là, c'est-à-dire que là, on va vraiment sur le terrain du sport pour aller reconquérir quelque chose qui, finalement, a échappé, parce que le sport de niveau, c'est un monde sacré aussi. Il ne faut pas oublier cette... là, on ne rentre pas comme ça dans le sport de haut niveau. C'est une initiation et c'est des rites en permanence.
Et c'était une manière d'être adoubé, quelque part, de combattre une figure comme Mike Tyson,
d'être et surtout gagner peut-être un public qui n'est pas familier aussi de ces gens-là.
Oui, la différence, c'est que, bien évidemment, quand vous montrez votre corps tous les jours sur YouTube, vous pouvez montrer que vous avez maigri, que vous êtes musclé, parce que, en fait, vous filmez tous les jours, vous montrez l'évolution du corps. Dans le sport, dans l'entraînement, je veux dire, Pogacar, vous voyez, il s'entraîne. Vous le voyez en course, mais vous ne voyez pas Pogacar tous les jours.
Sauf si, comme le disait Segarlez,
quelque
part un influenceur. Voilà.
Non, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'est une transformation de qu'est-ce que c'est que l'entraînement. Hein, c'est-à-dire que là, effectivement, le vrai entraînement, ça se fait en dehors des réseaux. Hein, c'est-à-dire qu'au contraire, ils essaient justement de voilà. Et ensuite, il y a le moment où je vais montrer, effectivement, la performance. Là, si vous voulez, c'est l'inverse. Et on voit bien ce qui se passe avec ces influenceuses qui essayent de maigrir au maximum et qui comptent le nombre de cuillères de yaourt qu'elles mangent aujourd'hui, etc. C'est-à-dire que, en fait, elles peuvent se permettre de faire des séries quotidiennes en montrant finalement une transformation du corps. Et ça, c'est dû à l'outil, mais c'est dû aussi au fait que on va visibiliser la transformation, alors qu'avant, autrefois, elle était, il y avait un avant, il y avait un après. Et ça c'est une dimension temporelle de la technique qui est quand même très, très transformatrice, même du rapport au corps.
Je vous propose qu'on rencontre un autre créateur de contenu. Alors, vous parliez de ceux qui avaient des communautés plus modestes que Thibaut InShape ou Jake Paul. Eh bien, justement, on va en rencontrer un qui nous vient d'Afrique, du Sénégal même. Mais avant, un petit extrait.
Bonjour, je suis Lamine Diaban, un des pionniers du calisthénique au Sénégal, discipline qui consiste à se muscler avec le poids de son propre corps. Calisthénique, c'est un mot grec qui signifie kalos, beauté, et sténos, ça veut dire force. On reste en haut. 2, 3, 4. On descend.
Pour dire que calisthénique, on n'a pas besoin d'autant de matériel. Il suffit juste d'avoir une barre de traction ou même avec son propre poids du corps. Il y a pas mal de mouvements, par exemple les sauts, les jump squats, les fentes, les push-ups, des tractions et tout. Tout ça peut être utilisé pour muscler son corps.
Extrait d'un reportage de nos confrères de la BBC, signé il y a quelques années par en fait quelqu'un qui est aujourd'hui un collègue, Baptiste Leduc, qui était à ma droite il y a quelques instants. Un reportage signé Babacar Diarra, l'homme qui parle anglais mieux que les Anglais eux-mêmes. Bonjour Lamine Diaban.
Oui, bonjour.
Ce reportage, vous en étiez le sujet, spécialiste en calisthénique. Donc on a entendu une technique de musculation avec finalement peu de choses, surtout le poids du corps, et vous donnez des cours en présentiel. à Dakar, dans une salle, mais aussi en ligne, quelque part, à une communauté via Instagram. Vous êtes aussi un créateur de contenu sur les réseaux au Sénégal. Qu'est-ce que vous diffusez exactement comme contenu ? Il y a des défis, des entraînements, ça s'adresse aux spécialistes, aux amateurs. Racontez-nous un petit peu.
Oui, effectivement, on va constater que le calisthenics, depuis quelques années, commence à prendre un peu plus d'essor au niveau du Sénégal. Et voilà, pas mal de jeunes se mettent à la pratique de ce sport, quoi. Et nous, ici, comme vous dites, je suis coach dans une salle, mais n'empêche, on a pas mal de parcs de calisthenics qui se sont un peu construites un peu partout à Dakar. Et cela fait qu'il y a un nombre assez important de jeunes qui s'adonnent à ce sport. Et bien évidemment, ça nous permet à nous aussi d'essayer de nous regrouper un peu, de retrouver peut-être même avec une création d'association pour pouvoir être reconnu sur le plan international. Donc ça nous a permis vraiment d'être affiliés à la Fédération internationale de calisthenics. Donc, ceci nous permet, bien évidemment, d'organiser des compétitions. Et voilà, pour rappel, juste l'année passée, on avait organisé une compétition nationale. Donc, nous comptons peut-être dans 2 mois réorganiser encore une autre compétition.
Et ça, c'est grâce à votre activité sur les réseaux sociaux que vous pouvez, comme ça, créer des émules, vous faire connaître au niveau des instances. Vous avez combien de followers sur Instagram, par exemple ? Combien de personnes vous suivent ?
Là, actuellement, je suis à 12 000... presque 13 000 followers, je dirais. Donc, voilà, ça fait des années que je suis en train d'évoluer dans ce domaine-là, et en étant coach et en même temps athlète. Et voilà, c'est par des créations de contenu, comme vous le dites, c'est par là que je me suis fait un peu plus connaître. Et voilà, c'est à partir des contenus que j'ai eu à mettre sur Instagram que j'ai été contacté par quelques personnes pour essayer de travailler avec eux, bien évidemment en essayant d'enseigner un peu cette discipline aux gens qui aimeraient vraiment apprendre. Et c'est de là que ça a commencé, en fait.
C'est le besoin de partager une passion ou simplement un aspect business, si je puis dire, développer son activité, parce que j'imagine que ça vous fait connaître, il y a peut-être plus de monde qui vient dans la salle, peut-être que vous pouvez vous associer à des marques. C'était quoi la motivation au départ ? Lamine Diaban qui répondra peut-être à ma question si elle lui parvient. Peut-être une réaction, Séguir Lazeri, sur ce que vous pointiez du doigt, donc, c'est-à-dire une manière d'influencer, de créer du contenu sportif de manière plus modeste. Là, on n'est pas sur un business model façon Thibaut InShape avec Lamine Diaban à Dakar, mais tout simplement la possibilité qui est celle des réseaux sociaux à la base, d'Internet à la base, de créer des communautés, de partager une passion, de se faire connaître. Et donc peut-être qu'on peut aussi voir ça de manière modeste et finalement assez sympathique.
Non, mais tout n'est pas acheté dans ce...
Assurez-moi.
Tout n'est pas acheté dans les médias sociaux. Et au contraire, non, bien sûr, au contraire, c'est une transmission de contenu. Effectivement, ça crée des communautés. Et comme son nom l'indique, effectivement, ça crée des liens entre les individus. Là où ça peut être critiquable, alors déjà il faut quand même se rendre compte de la pratique. Est-ce que la pratique vraiment la pratique émergente, alors la calisthénie, c'est ça, ça m'arrivait déjà d'en regarder, on répond pas aux mêmes attentes corporelles que le développement. On est plus, Bernard Andrieux m'expliquera encore mieux que moi, on est plus dans une écologie corporelle que simplement dans une ultra performance avec des muscles très très puissants et très gros.
C'est quelque chose de plus vertueux.
C'est quelque chose de plus vertueux. Alors voilà, après, puis ça s'inscrit aussi dans un registre de une forme de sous-culture, hein, de contre-culture, je dirais, pas sous-culture, parce
qu'il y a culture de rue.
De culture de rue, effectivement. On a quand même des variantes de ce qu'on appellerait le street workout. Et donc on est un peu dans cette mouvance-là, dans des choses qui se construisent de manière contre-culturelle, comme les médias sociaux, qui sont, enfin, les médias, comment Internet est aussi à débarquer aussi dans nos vies et dans nos usages. Après, vraiment, pour revenir sur cet aspect-là, c'est que les médias sociaux créent des formes d'inégalité, notamment chez les créateurs de contenu, parce que effectivement, tout le monde est un peu inégaux face à ça, face notamment à l'usage et à toutes les capitaux, les ressources, en quelque sorte, techniques et numériques qu'il faut avoir pour pouvoir faire fructifier ce bien-là. Tout le monde, ça me fait penser à des travaux qui ont été faits par un sociologue qui s'appelle Guillaume Dumont, qui avait travaillé sur les grimpeurs professionnels. Mmh. Et lui, ce qu'il montrait justement, et ça rejoint un peu tout ce qu'on a dit aussi dans cette émission-là, c'est que les grimpeurs professionnels, pour vivre de leur pratique, sont obligés de renoncer à la performance. Pourquoi ? Parce que ce qu'ils voient dans des voies ou dans des usages sportifs, en fait, ils le voient sous l'angle de la visibilité. Il faut que, à tout prix, quand ils vont regarder une falaise,
une bonne vidéo.
Effectivement, quand ils vont regarder une falaise, ils vont se dire voilà, comment je la prends, comment j'analyse, est-ce qu'elle est diffusable et sur quelle plateforme je peux mettre des courts extraits. C'est même plus l'intérêt sportif de se dire ah, celle-là, cette voie-là, je ne l'ai jamais essayée, il faudrait peut-être que j'en essaye une autre. Non, le but, c'est de rendre visible la chose, quitte à renoncer à la performance. Donc ça devient même contre-productif, même dans cette idée d'engagement sportif. Et c'est en ce sens que finalement, en fait, on est soumis à des aléas et peut-être une forme de déterminisme numérique qui apparaît et qui finalement va contrecarrer justement cette idée de dépassement.
Lamine Diaban, ça vous prend du temps de créer des contenus numériques, ça vous permet de développer votre pratique ou parfois ça vous embête un petit peu, voilà, vous êtes obligé de penser à la caméra, aux images, ça prend du temps sur votre pratique à vous, sur votre coaching, c'est un vrai travail, on imagine, c'est aussi un vrai business.
Oui, évidemment, ça prend quand même du temps, hein, la création de contenu. Et voilà, le fait d'allier le travail de coaching et en même temps la création de contenu, c'est ça qui est beaucoup plus compliqué, en fait. Moi, j'ai tendance à dire aux gens, écoutez, le côté athlétique, peut-être je vais mettre ça de côté et peut-être essayer de me renforcer pour pouvoir soit maintenir cette forme-là, et continuer à créer ces contenus-là qui vont peut-être motiver certains à vouloir venir à la rencontre de cette discipline-là qui est le calisthenics. Donc, évidemment, c'est pas une mince affaire. Donc, pour un montage, non seulement il faut des caméras très bien sophistiquées pour pouvoir atteindre plus de vues, je veux dire. Il faut des contenus vraiment de qualité, c'est-à-dire les images doivent refléter quand même un peu de professionnalisme, ce qui permet à la personne de pouvoir vraiment avoir sa vidéo qui pourra faire le tour un peu sur les réseaux sociaux. Donc ici,
Lamine Diaban, je voudrais faire réagir Bernard Andrieux justement à ça, sur cette idée, et que développait déjà Séguir Lazeri, sur l'idée que c'est parce que l'image qui doit déterminer le sport, on a presque inversé
la chaîne. Mais là, on est sur un cas vraiment intéressant de ce que vous faites à Dakar, parce que justement, le problème, c'est comment, par rapport à une pratique qu'on pourrait dire traditionnelle, culturelle, autochtone, lié finalement aussi à une certaine conception du corps, de la pratique, on va être obligé, et ça c'est à cause du média, de transformer la forme. Hein, c'est-à-dire qu'on va être obligé, tu l'expliquais très bien, il y a une standardisation qui vient du média. Et donc cette transformation de la forme, dans une certaine mesure, elle va nous éloigner. Et il y a beaucoup de pratiques, je pense aux jeux traditionnels, qui justement vont soit tomber dans une spectacularisation de ça, c'est-à-dire où on va transformer la forme au point qu'elle soit médiatique, soit des gens qui vont au contraire totalement refuser ce process. C'est-à-dire qu'ils vont dire, là, on est en train de perdre l'essence, finalement, de ce qui était la pratique d'origine.
Ben écoutez, ce sera votre prophétie et notre mot de la fin, Bernard Andrieux, philosophe du sport, Lamine Diaban, spécialiste de calisthenics et créateur de contenu sportif à Dakar. Je vous remercie de nous avoir dit quelques mots et j'encourage les gens à se rendre sur vos comptes sur les réseaux sociaux. Ils les trouveront facilement. On mettra peut-être ça sur notre page Facebook. Merci aussi Séguir Lazeri. Tout de suite dans RFI Géopolitique avec vous, Marie-France Chatin.
Oui, Hugo, nous parlerons de la présidence Trump et des conséquences importantes en matière de défense pour l'Europe.
Et merci également Claude Battista et Toussaint Maquet. Baptiste Leduc, notre monsieur Aerox, désormais dans Mondial
Sport. J'ai toujours le bracelet.
Demain, invité exceptionnel, Jean-Aimé Toupane, le sélectionneur de l'équipe de France féminine de basketball. En attendant, excellente soirée à l'écoute de la Radio du Monde.